réel au cœur de la décadence.
CIBL 101.5 Montréal.
Vivre Montréal.
Ça prend la radio communautaire parce que les gens se sentent impliqués là, comme une espèce de longueur d'onde.
CIBL, au cœur de la vie citoyenne.
Bonjour et bienvenue à l'Effet durable sur les ondes de CIBL 105, l'émission de la Maison du développement durable. Alors aujourd'hui, on met l'accent sur l'arrivée du jour de la Terre. Hein, ça arrive bientôt, il y a des grandes marches qui sont organisées ce dimanche 21 avril et sinon lundi sera la journée officielle. Et pour commencer, nous allons parler d'économie sociale avec le fondateur, membre fondateur de Pibrac Microbrasserie avec Félix David. Ford. Bonjour Félix.
Bonjour Maud, bonjour tout le monde.
Bienvenue à l'émission, comment ça va ce matin?
Merci beaucoup, ça va super bien, vous aussi?
Oui, ça va très bien, merci. Écoute, on va se lancer dans le vif du sujet. Donc, il y a cette microbrasserie située à Jonquière qui s'appelle le Pibrac, comme je le disais en introduction. Raconte-nous l'histoire de cette brasserie-là.
Ouais, en fait, Pibrac, c'est l'histoire de trois gars rationnels qui ont un jour pris une décision de passion, peut-être. Alors, on est trois vieux amis qui se connaissent depuis toujours. Et quand on était à l'université, il y a déjà une vingtaine d'années de ça, on s'est découvert une passion pour la production de la bière artisanale. Et c'est une passion qui ne nous a jamais quittés. Par contre, on a chacun fait une carrière dans des domaines scientifiques qui avaient un lien avec la protection de l'environnement. Mm-hmm. Et puis un jour, on s'est retrouvé peut-être dans une espèce de crise existentielle de la mi-trentaine.
Comme plusieurs.
À se dire que finalement, on voulait essayer de mettre nos compétences au service de notre passion et de tenter de monter notre propre entreprise et de tenter d'en vivre. Alors, l'idée de base derrière Pibrac, c'était de mettre l'emphase sur la qualité de la bière produite, mais en intégrant des principes de développement durable dans toutes les sphères de l'organisation. Et c'est comme ça que le projet est né il y a maintenant 7 ans.
Merveilleux, merveilleux. Et vous vous êtes établi dans un parc industriel, ce qui est quand même particulier comme lieu à adopter pour instaurer une microbrasserie. Ça a été quoi vos premiers constats?
D'abord, il faut dire qu'on s'est installé dans un parc industriel par obligation à cause des règlements de zonage de la ville qui nous l'imposaient. Et on est arrivé dans le parc industriel de Jonquière pour se rendre compte assez rapidement que la partie industrielle était assez évidente, mm-hmm. et que la partie parc avait été un peu oubliée.
Okay.
Donc, comme beaucoup de parcs industriels du Québec, c'est un esthétisme discutable, disons, là, dans le parc industriel. Donc, ça, c'était le premier constat. Mais bon, ça allait devenir notre chez-nous. Alors, en tant que nouveaux arrivants, on est allé se présenter à nos voisins. Pour rencontrer là des entrepreneurs, des travailleurs acharnés, des gens très, très fiers de ce qu'ils faisaient, mais des gens aussi qui avaient très peu levé leurs yeux de leur travail pour regarder autour ce que les autres faisaient. Alors, comme le veut l'expression, les gens dans le parc industriel travaillent en silo, très peu d'interactions entre les entreprises. Donc, ça a été nos deux premiers constats. Et de là, on a eu un déclic et on s'est dit que si on voulait mettre de l'avant des pratiques de développement durable, ça pouvait pas s'arrêter au mur de la microbrasserie. Mmh. Ça devait s'appliquer aussi à notre environnement.
Oui.
Et là, avec quelques citoyens, quelques autres entreprises qui partageaient ce désir-là d'améliorer le parc industriel, ben on est allé voir la ville en leur proposant notre projet. Et puis, on a eu une très belle écoute de l'organisme de développement économique de la ville qui s'appelle Promotion Saguenay. Et de là, on s'est mis au travail. Et la première chose qu'on a fait, c'est une étude qui avait deux objectifs. Le premier était de caractériser le parc industriel de Jonquière parce qu'on s'est rendu compte que cette information-là n'existait pas nulle part à la ville.
Mm-hmm.
Donc là, on s'est mis à littéralement faire du porte-à-porte pour aller rencontrer les quelques 120 entreprise du parc industriel de Jonquière en s'intéressant au type d'entreprise, à leur taille, au type de matières premières qu'ils utilisent, au type de rebuts qu'ils génèrent, à leurs enjeux spécifiques. Et on a catalogué tout ça pour avoir une meilleure idée de notre terrain de jeu, si on veut. Mm-hmm. Et puis, la deuxième partie de cette étude-là était plus créative. Et c'est là où on a imaginé ce que pourrait devenir un éco-parc industriel.
Intéressant.
Donc là, on est allé voir ce qui se faisait ailleurs au Québec, mais aussi ailleurs dans le monde. Et on a proposé comme ça des pistes d'amélioration de notre milieu de vie à Promotion Saguenay. Et Promotion Saguenay a reçu ça avec beaucoup d'enthousiasme et a décidé de nous épauler dans cette démarche-là. Et même le conseil de la ville a officiellement décrété la zone durable Jonquière, la ZDJ, dans laquelle on se trouve aujourd'hui, et puis on en est bien content.
Quel bel accomplissement, vraiment, de créer cette synergie-là. Est-ce que tu peux me donner quelques exemples, justement, de l'économie circulaire qui s'est développée au sein même du parc industriel?
Oui, avec plaisir. Bien, pour nous, c'est très excitant parce que c'était une idée. Puis là, c'est en train de devenir très concret de différentes façons. Alors, je vous donne des exemples. D'abord, Promotion Saguenay a embauché à l'interne un éco-conseiller. Donc, il y a maintenant une ressource dédié à la ville à former et informer les entrepreneurs désireux de le faire dans la zone et ailleurs au Saguenay aussi d'ailleurs. Mais donc ça peut aller là, de la formation développement durable 101 à épauler les entreprises dans leur auto-diagnostic d'aider dans l'élaboration d'un plan de développement durable, dans la recherche de subventions. Et quand on pense aux PME qui sont souvent débordées, ben avoir ce genre de ressources-là, c'est déjà un excellent départ dans leur démarche. Ensuite, vous le mentionniez, là, il y a des notions d'économie circulaire. Donc, on a mis en place une rencontre mensuelle où une fois par mois, il y a un entrepreneur du parc qui va inviter ses voisins à dîner. Et là, il va se passer trois choses. La première, l'entreprise va se présenter ses activités, question qu'on continue à apprendre à se connaître. Dans un deuxième temps, si cette entreprise-là fait déjà des bons coups en matière de développement durable, elle va les partager avec les autres entreprises, question d'inspirer les autres. Et en troisième partie, on se garde du temps pour animer des ateliers de maillage et de synergie industrielle entre les entreprises pour trouver des mariages. Et puis, ce qui est beau, c'est qu'on en trouve plein, de plus en plus. Et puis, ben, je vais vous donner des exemples de ça, là, juste pour illustrer le tout. Par exemple, on a dans le parc industriel une boulangerie qui, malgré ses efforts et malgré ses dons aux banques alimentaires, finit parfois avec du pain en trop. Ces pains-là, pour éviter le gaspillage alimentaire, Pibrac va les intégrer dans ses recettes en remplacement du blé. Mmh. Donc, nous, ça nous épargne un peu de matière première, puis surtout, ça évite de détruire ces pains-là. Toujours chez Pibrac, le reste de la matière première qu'on reçoit arrive dans des sacs de malt de 25 kilos. Ces sacs-là, on les redonne à une autre entreprise d'économie sociale qui, elle, fait le tour du parc et va dans d'autres entreprises qui ont des rebuts de bois et vont ensacher ces rebuts de bois-là pour les revendre comme bois d'allumage dans les campings de la région. Donc, okay. Ça leur évite d'acheter des sacs. On a une belle histoire où il y a un atelier mécanique qui, après la haute saison, qui est la saison de la pose des pneus, okay. Se retrouve avec deux employés en trop. Et puis, on s'est aperçu qu'il y a une autre entreprise du parc qui a un besoin ponctuel d'employés, justement, tout de suite après la période des pneus. Donc, ces employés-là vont passer du garage vers une autre entreprise, puis revenir au garage ensuite. Mm-hmm. Donc, il y a un beau partage de main-d'œuvre-là qui est si rare ces temps-ci. Donc, c'est une belle façon de partager.
Effectivement, beaucoup de belles initiatives, ouais. Beaucoup de maillages qu'on n'aurait peut-être pas pensé. On doit se rendre vers la conclusion de cette chronique. Déjà, peut-être nous parler de quelque chose que vous sentez que ça a vraiment fondamentalement changé ou un fait saillant que vous aimeriez faire ressortir là, par rapport à cette implantation-là dans le quartier de Jonquière?
Oui, bien, je vous dirais, mon message serait peut-être sous le signe de l'humilité. Hein. Nous, on s'est rendu compte rapidement que brasser de la bière au fond du Saguenay, ça ne changerait pas le monde. Par contre, devenir un très bon citoyen corporatif et inspirer les autres entreprises autour par nos actions, je pense que ça peut faire la différence globalement si tout le monde se met à faire tous ces beaux gestes-là. Et ce qui est beau dans notre parc industriel, c'est qu'il y a de plus en plus de manifestations de ce qui ressemble à un éco-parc et de ce qu'on souhaitait qu'il arrive. Donc, l'avenir s'annonce très prometteur pour notre belle zone durable de Jonquière.
C'est assurément inspirant ce que vous racontez là, puis comme initiative. Un grand merci, Félix Davio-Ford, donc membre fondateur de Pibrac Microbrasserie à Jonquière. Au plaisir.
Merci, bonne journée à tous.
Bonne journée à vous. Alors, on poursuit maintenant avec Francis Waddell de la Planète Saint-Vite au Parlement. Bonjour, Francis.
Salut, Maude.
Et Shirley Barnea de Réalité Climatique Canada. Bonjour, Shirley. Bienvenue à l'émission. Donc, avec vous, on parle aujourd'hui de la Grande Marche du Jour de la Terre.
Oui, bien, merci, Maud, de ton accueil ce matin. C'est vraiment un plaisir là, de profiter de cette tribune. Puis, bien, moi, je vais vous parler un peu plus d'un des organismes là, qui co-organise, dans le fond, cette marche-là. C'est La Planète s'invite au Parlement. Parce que je pense que c'est important là, de faire d'alimenter plutôt... d'alimenter là, la mémoire collective parce que ce qu'il faut se rappeler, c'est que nous, on est vraiment une coalition de bénévoles citoyens et citoyennes engagés. Donc, on a des revendications, on en a deux en fait. Puis, dans les revendications, ben c'était vraiment de bannir les énergies fossiles en 2030. Puis, l'autre, ce qui nous paraissait vraiment important, parce que c'est tout est une histoire d'argent, c'est vraiment de taxer massivement la richesse puis de réinvestir cette richesse-là dans nos systèmes sociaux, mais aussi dans la lutte à la crise climatique. Puis, là, quand on est arrivé devant les autres co-organisateurs qui nous ont dit « Hey, by the way, on aimerait ça vous avoir pour organiser cette marche-là », on a fait « Ben, on est en parfaite adéquation là, avec vos revendications qu'on va parler un peu plus tard ». Puis, peut-être terminer là, sur l'historique, dans le fond, de La Planète s'invite au Parlement, c'est que ça a débuté quand même en 2018. Puis c'était des citoyens et citoyennes qui n'avaient pas vraiment les habiletés initiales là, pour créer des manifestations. Puis ils ont quand même embarqué. Fait que, tu sais, ce qui est vraiment important là-dedans, c'est de comprendre qu'on a un pouvoir en tant que citoyenne, citoyen, puis il faut se le donner aussi, ce pouvoir-là. Puis, on était dans les élections provinciales. Puis là, depuis ce temps-là, ben, ça a pris un an plutôt... pour arriver à le fameux 27 septembre 2019, où il y a eu 450 000, pour certains 500 000 personnes dans la rue, pour revendiquer qu'il y ait justement un plan de transition énergétique, un plan de transition sociale aussi, puis parce qu'on est encore dans une fameuse crise climatique. Puis voilà, fait que là, c'est pour ça que nous, on embarque encore en 2024, puis que ça nous fait plaisir d'être présents.
Excellent. Merci beaucoup. Merci de co-organiser cette marche de dimanche prochain. Et je me tourne maintenant vers Shirley. Donc, là, toi, tu vas nous parler plus précisément des revendications de la marche et de ce qui va se passer le 21.
Oui, absolument. Donc, merci d'avoir beaucoup pour m'accueillir ici avec Francis. Puis, je voulais aussi souligner que je porte deux chapeaux. Je suis en effet en stage avec Réalité Climatique Canada, mais je suis aussi, même avant tout, pour le Futur Montréal, groupe de jeunes engagés qui luttent pour la justice climatique à travers les grèves étudiantes et les manifestations. Donc, c'est notamment pour le Futur Montréal qui co-organise cette grande manifestation du Jour de la Terre avec la Planète s'invite au Parlement, ATA Québec et le Cœur de la Transition de Montréal qui vont chanter lors de cette manifestation.
Oui, bien d'entendre donc, ça.
ça va être super cool. Ça se passe le dimanche 21 avril à 13h à la Statue du Mont-Royal. Donc, évidemment, vous êtes tous et toutes invités à marcher avec nous. Puis avant de rentrer vraiment dans le vif des revendications, je voulais juste souligner qu'on marche aussi parce que ça fonctionne. Puis Francis nous parlait des départs de la Planète s'invite au Parlement. C'est une coalition qui s'est formé en 2018 en réponse au manque total de débats sur l'environnement lors des élections provinciales de 2018. En 2018, dans la plateforme électorale de la CAQ, ils parlaient encore d'exploitation entre gros guillemets responsable du pétrole. Ils parlaient d'une ouverture envers la fracturation hydraulique pour sortir du gaz de schiste. Puis notre mouvement dans le sens le plus large, donc pas juste les manifestations, mais vraiment les personnes qui sont impliquées en environnement dans toutes les sphères de la société. Mais on a poussé la CAQ à rejeter notamment le projet GNL Québec, puis à interdire les nouveaux projets d'exploitation pétrolière sur tout le territoire. Donc, continuons à pousser fort parce que il reste quand même beaucoup de travail à faire. Puis ce qu'on veut notamment souligner avec cette manifestation à Montréal, c'est que la CAQ, ce qu'elle nous propose maintenant, c'est une fausse transition. Ils ont un plan pour une économie verte, ils parlent, ils investissent de l'argent, mais ce n'est pas une réelle transition écologique. Donc, prenons l'exemple du projet Northvolt, par exemple. C'est une usine de batteries à véhicules électriques. Puis des gens pourraient dire, mais pourquoi les écolos, ils chialent? C'est ça qu'il faut. Oui, ça prend des batteries, mais regardons comment c'est fait pour construire cette usine de batteries à véhicules électriques, mais on empiète sur un territoire sensible, riche en biodiversité, avec une vingtaine d'espèces menacées. On ne consulte pas la population, on change les règles pour exempter ce projet d'un BAP, d'un bureau d'audience publique sur l'environnement. Et donc, c'est comme si, au nom de la transition, ben, on s'en va puis on prend tous nos processus démocratiques, nos processus qui sont mis en place pour protéger l'environnement, puis on les jette à la poubelle. Donc, c'est pas ça qu'il faut. Puis, ce qu'on voulait souligner aussi, c'est qu'avec Northvolt, par exemple, l'idée ici, c'est que les énergies renouvelables, les technologies, entre guillemets, vertes, c'est pas sans impact non plus, comme on voit. Et donc, ce qu'il faut d'abord, c'est réduire à la source. Ça prendrait ce qu'on voudrait voir, par exemple, c'est des investissements dans le transport collectif et pas juste dans des autos solo.
Oui, absolument. Francis, pour terminer ce segment sur le jour de la Terre.
Ben, ça sonne vraiment doux à mes oreilles, ce que Charlie dit, de toute manière, parce que c'est vraiment ça qu'on va revendiquer. Un réel plan, dans le fond, de transition énergétique, entre autres. Moi, je voulais vraiment remercier justement Atta Québec de nous avoir invités, le cœur de la transition, de participer puis de nous faire chanter. Puis surtout, pour le futur Montréal, qui est quand même la jeunesse, mine de rien, qui gronde. Fait qu'on est vraiment contents. La planète s'invite au Parlement. On est quand même festif. Puis tu sais, on est un peu ironique là-dedans parce qu'on sait pas trop qu'est-ce qu'il faut fêter, mettons, lors du jour de la fête de la marche de la Terre. Fait qu'on va quand même vous inviter. C'est le 20 avril à l'Espace Maker, qui est un super bel espace, justement, de revendications aussi autres. Ça va être un gros party. C'est à partir de 19h30. Si vous voulez acheter les billets, c'est sur Eventbrite ou aller sur la page La Planète s'invite au Parlement. Puis on fait un appel à tous et à tous pour venir marcher le 21 avril. Oui.
Super. Donc, le party est le 20 avril. Toutes les informations sur La Planète s'invite au Parlement sur Facebook. Et sinon, la grande marche du 21 avril, j'y serai assurément. Donc, on s'y retrouve sans faute. Une excellente journée à tous les deux. Merci d'être venus à l'émission.
Merci.
Merci beaucoup.
Et maintenant, on va parler d'objets réutilisables, mais de leur surconsommation, hein? Parce que oui, c'est bien réutilisable, mais peut-être pas dans toutes les quantités possibles et imaginables. Donc, on se retrouve avec Mélissa de la Fontaine de la Coop Incita, donc conseillère et animatrice mode de vie zéro déchet et transition écologique. Bonjour, Mélissa.
Bon matin, Maude.
Bon matin. Donc, toi, tu vas nous parler là, justement de ces objets réutilisables qu'on se pense bon là, de les acheter et puis on veut en avoir beaucoup, mais finalement, ça a un impact aussi. Hein?
Oui, bien en fait, ma chronique, elle vient vraiment d'une double anecdote qui est arrivée à la coopérative avec mes collègues. Là, ma collègue Aurore et moi, les deux, on était approchés par des médias pour venir justement parler de la fameuse bouteille Quencher de Stanley. Puis là, il faut que je vous avoue que moi, je suis pas vraiment sur les médias sociaux, fait que je l'avais pas vu passer. Mais je me suis rendu compte que c'était vraiment une grosse mode, en particulier sur TikTok, des gens qui avaient des bouteilles Quencher de Sonnay. Je sais pas si tu vois de laquelle je parle. Puis qu'il y a une grande panoplie de couleurs. Puis que là, en fait, j'ai découvert plein d'anecdotes. Donc, l'anecdote d'une femme qui avait laissé sa bouteille dans sa voiture, que la voiture a pris en feu, la bouteille a résisté ça. Fait que ça, là, c'est devenu toute une histoire. Une enfant qui se fait filmer en recevant en cadeau cette bouteille-là, puis c'est comme être en pamoison là, devant son parent d'y avoir acheté cette bouteille-là, ou les gens qui en collectionnent, tu sais, comme des dizaines pour avoir toutes les couleurs. Ça, ça m'a vraiment jeté à terre. Ça m'a ramené justement à tous ces événements où là, ça fait quelques années quand même que je travaille en environnement où nous, on travaille très fort à conscientiser les gens sur des bons gestes écologiques, puis que le marketing vient comme nous rattraper par en arrière et déformer notre message. Fait que ça, c'est toujours un petit peu fâchant. Fait que là, on dirait que ma question de ce matin pour la chronique, c'est « Mais combien de bouteilles d'eau une seule personne peut-elle utiliser au quotidien? » Là, ce qui est fascinant, c'est que la réponse, ça semble devenir de plus en plus extensible. Puis ça, c'est vraiment le plus grand bonheur des actionnaires des entreprises qui vendent ces bouteilles-là, parce que plus on en achète, plus ils vont faire des profits. Juste pour vous donner une idée, le modèle Quencher de Stanley a été vendu à plus de 10 millions d'exemplaires. Puis les revenus de l'entreprise sont passés de 73 millions US en 2019 à 750 millions US en 2023.
Wow.
Et là, ma question, c'est est-ce que l'humanité avait vraiment besoin de 10 millions de bouteilles réutilisables supplémentaires? J'ai un petit doute, surtout si on se retourne toutes dans nos cuisines puis qu'on ouvre la fameuse armoire où s'empilent les bouteilles d'eau réutilisables et les thermos à café.
Et oui.
Je pense qu'on en avait suffisamment.
Je pense que oui. Fait on aurait pu partager tout ça avec les stocks qui sont même pas vendus ou sortis en magasin encore.
Exact. Puis les friperies en débordent d'ailleurs. Là. C'est comme un peu un running gag avec mon copain à ce niveau-là. Fait que, évidemment, tu sais, vous comprendrez que j'apprécie pas vraiment quand le discours écologique sur lequel on travaille si fort avec vraiment moins de moyens que le marketing a pour justement encourager les gens à consommer plus d'objets sous prétexte que c'est plus écologique.
Oui, absolument.
Fait que là, ce qu'il faut dire, c'est que le problème avec ça, c'est que même si on se fait dire que ce produit est écologique, puis effectivement, ça fait des années qu'on dit aux gens « prenez votre bouteille d'eau réutilisable », c'est qu'une bouteille d'eau réutilisable va être plus polluante à produire qu'une bouteille d'eau à usage unique, parce que souvent, il va y avoir plus de matériaux, il va y avoir des matériaux qui sont même beaucoup plus polluants à produire que le plastique seulement. Fait que ça, c'est vraiment un problème. Fait que là, la question qu'on peut me demander, c'est « ben oui, mais là, madame, pourquoi vous me dites d'abord d'utiliser une bouteille d'eau réutilisable
si c'est plus polluant à produire? » Qu'est-ce qu'on
pourquoi?
Fait?
Ben, c'est que le concept de base d'une bouteille d'eau réutilisable, c'est qu'elle est réutilisable. Donc, idéalement, il faut la réutiliser longtemps et souvent. Fait que là, je vous donne l'exemple de ma bouteille d'eau, qui est orange, fluo et bien poquée comme il faut. Ça fait plus, ben, ça fait probablement 9 ans, en fait, que je l'ai. Fait que si on fait un petit calcul vraiment boboche et rapide, mettons que j'utilise cette bouteille-là une fois à peu près à tous les 2 jours, que je la remplis une fois dans cette journée-là, c'est environ 1642 bouteilles d'eau à usage unique que j'ai évité avec cette unique bouteille d'eau réutilisable et lavable. Fait que c'est là que ça devient compétitif, c'est vraiment en réutilisant les objets longtemps et souvent. Fait que c'est vraiment la chose à faire avec ces objets-là.
Oui, et là, en résistant à l'envie de s'acheter une bouteille dernier cri, là.
Exact, exact. Ouais, il faut vraiment résister. Ça, je vais y revenir un petit peu plus tard.
Parfait.
Là, je veux juste vous dire, je suis quand même humaine et influençable. La bouteille d'eau que j'ai, v'là 9 ans, c'était la bouteille d'eau qui était à la mode. Je vous dis pas la marque parce que j'aime pas ça faire la promotion, mais v'là 9 ans, c'était celle qui était bien à la mode parce que c'est pas nouveau, là, avec Stanley puis Quencher, là. Je veux dire, ça existe depuis longtemps puis il y a d'autres marques qui ont passé avant avec toutes sortes de motifs. Mais à la différence près que quand j'ai eu cette bouteille d'eau-là, j'en ai choisi la couleur qui est ma préférée, de laquelle je ne me tente pas. Donc, après 9 ans, ça reste toujours ma bouteille d'eau préférée. J'ai cru à un certain moment l'avoir oubliée dans un avion en voyage, puis je suis retournée en arrière de 15 minutes de marche pour aller l'acheter parce que c'est ma préférée. Mm-hmm. Elle a les marques de la vie qui prouvent qu'elle est bel et bien réutilisable pendant plusieurs années et je l'aime.
Quel amour
et là,
pour cette bouteille.
Ben oui, vraiment. Non, moi, je ne veux pas la perdre. Je ne veux vraiment pas la perdre. Puis là, je vous parle de bouteilles d'eau, mais évidemment, cette idée-là s'applique à tous les objets réutilisables du quotidien. Fait qu'on peut penser aux sacs d'emplettes qui sont aussi beaucoup vendus avec plein de nouveaux motifs qui sont tellement attrayants. Les thermos à café, c'est la même chose. Tous les contenants réutilisables, tu sais, la liste est longue. Fait qu'on prend l'exemple des bouteilles d'eau ce matin, mais ça s'applique à tout ce qui est réutilisable. Surconsommer, même un objet qui est plus éco-responsable dans sa conception ou dans son utilisation, ça reste nocif pour l'environnement. Fait que l'idée, ça reste toujours d'en consommer moins. Ça, ça vient toujours de l'idée du cycle de vie, en fait. Ça, c'est comme c'est la chose de laquelle je parle tout le temps dans mes chroniques, j'ai l'impression, dans mes conférences, c'est la chose que je répète tout le temps. C'est quand on a un objet devant nous, on a tendance à voir seulement cet objet-là, fait qu'on dit que c'est pas beaucoup de déchets. Mais quand on fait ça, ce qu'on est en train d'oublier, c'est toutes les ressources et l'énergie nécessaires pour amener cet objet-là jusqu'à nous. Être vraiment beaucoup de ressources et d'énergie et d'emballage et de transport et tout ce que vous pouvez imaginer. Et en fait, en fin de vie, cette bouteille-là aussi va avoir besoin de soit être recyclée, donc transportée, ou va finir, par exemple, dans un site d'emplissement.
Oui.
Donc, quand on surconsomme un objet, c'est tout ce cycle de vie-là qu'on est en train de surconsommer, pas seulement la bouteille ou le petit objet qu'on a dans nos mains.
Oui.
Donc, aujourd'hui, ce que je vous invite à faire, oui, dans le cadre du jour de la Terre qui s'en vient, mais aussi comme à l'année, s'il vous plaît, 365 jours par année, c'est de réfléchir différemment et d'essayer de combattre l'éco-blanchiment. Là, je sais que ça fait un certain temps qu'on parle d'éco-blanchiment. Là, je pense que globalement, pas mal tout le monde sait c'est quoi. Là, c'est vraiment l'idée qu'une entreprise va nous faire croire que ses produits, finalement, sont plus éco-responsables pour nous inciter à en consommer plus. Mais dans la définition d'éco-blanchiment, j'ai aussi envie de vous ajouter la définition de nous faire croire que consommer plusieurs de ce produit-là, même s'il est plus écologique, c'est bon pour l'environnement. Donc, même si un objet est réellement plus écologique, son utilité est comme effectivement prouvée, là, on en veut des bouteilles d'eau réutilisables, en consommer plus n'est pas un geste qui est bon pour l'environnement.
Non, effectivement, et de se poser toujours la question, en ai-je vraiment besoin?
Exact, et on y arrive, on y arrive! Puis effectivement aussi, il faut toujours se rappeler que les entreprises qui nous disent que leurs produits sont éco-responsables, sont pas tous, je veux pas les juger tous de la même façon, on a vraiment qui sont bien intentionnés, d'autres vraiment moins, là, c'est pas le sujet de ma chronique aujourd'hui, mais il faut garder en tête que les grandes entreprises qui nous vendent ces objets-là évoluent elles-mêmes dans un système économique qui incite à la croissance. Donc, leur objectif premier, c'est qu'on surconsomme leurs produits parce qu'elles veulent faire du profit. C'est vraiment ça leur objectif principal et pas de sauver l'environnement.
Oui, absolument.
Puis après ça, j'avais le goût, tu sais, de revenir sur d'autres objets. Là, j'ai l'impression que l'histoire se répète tout le temps. Là. C'est la même chose qui est arrivée avec, au fond, la paille à usage unique en plastique ou les sacs à usage unique en plastique. Là, on s'est rendu compte que c'était un problème pour l'environnement. On en a parlé aux gens. Fait que là, finalement, la solution qui a été proposée par l'industrie, ça a été de changer la matière. Donc, on est passé du plastique au carton. Là, après ça, tout le monde le dira avec raison. Une paille en carton, c'est vraiment désagréable de surcroît, mais ça, c'est un autre sujet.
Oui.
Mais tout ce que ça l'a fait, c'est déplacer le problème d'une matière qui était le plastique vers une autre matière qui est le carton, donc les arbres qu'on a besoin. Et on ne s'est pas attaqué au réel problème à la source qui était l'usage unique. Donc, la vraie solution à ces problèmes-là, c'est pas de changer de matière, c'est d'aller vers du réutilisable qui va être réutilisé. Puis le paradoxe dans cet exemple-là, c'est qu'à la base, on était passé du carton au plastique pour sauver les arbres. Puis là, on est en train de faire le chemin inverse. Fait qu'on tourne en rond, là. Là, ce qui est paradoxal dans tout ça, c'est qu'on dirait que là, peut-être qu'on est en train collectivement de comprendre que le réutilisable, c'est préférable. Fait que l'industrie se dit « Parfait, vous aimez mieux le réutilisable. » On va vous en faire surconsommer, puis on va ramener ces objets-là dans quelque chose qui est vraiment plus proche de l'usage unique, finalement. Donc, on n'est vraiment pas gagnant.
On n'est vraiment pas gagnant. Fort intéressant, toutes ces réflexions, hein? Des éléments importants à garder en tête, surtout quand on fait notre petit magasinage qui se veut zéro déchet, là.
Oui, exact. Puis là, j'avais comme en rafale des petits trucs à vous dire où on doit aller avec tout ça, donc les conclusions de cette histoire en 6 ou 7 points. Le premier truc, c'est vous faites pas prendre par le marketing du réutilisable qui est jetable. Évidemment, vous l'aurez compris. Aimez vos objets réutilisables comme j'aime ma bouteille d'eau orange tout poquée, s'il vous plaît. Donnez-leur de l'amour. Ayez moins d'objets aussi. Vous n'avez pas besoin d'armoires remplies de bouteilles d'eau réutilisables, pardon. Là, une, deux peut-être maximum, ça fonctionne très bien. Donc, ayez un plus petit nombre. Sélectionnez-les avec amour. Quand vous les achetez, prenez le temps de les choisir avec vos goûts et pas la mode qui est passagère. Vraiment, allez-y selon vos goûts. Et si possible, favorisez l'usager. Fait que moi, ce que je vous propose, c'est de prendre la chronique d'aujourd'hui, envoyez-la à votre ami qui a déjà 20 bouteilles d'eau dans son armoire, puis convainquez cette personne-là de vous donner une de ces bouteilles d'eau-là. Comme ça, vous allez la gagner, votre utilisable. Cette personne-là va pouvoir s'en débarrasser d'une. Et gardez-les longtemps, le plus longtemps possible, c'est la meilleure chose à faire.
Merveilleuse idée. Merci beaucoup pour ces précieux conseils, Mélissa de la Fontaine, donc conseillère et animatrice mode de vie zéro déchet et transition écologique chez Incita Coop Conseil Zéro Déchet. Une excellente journée à toi et bonne journée de la Terre.
Merci, toi aussi. Merci, Maude.
Au plaisir. On s'en va donc vers une pause publicitaire et on se retrouve tout de suite après avec Zoé et Thomas de l'Alternateur. À tout de suite.
Peu importe si vous offrez en location un condo centre-ville, un chalet ou une maison ancestrale, au Québec, peu importe l'hébergement touristique de courte durée offert, le numéro, c'est obligatoire. Assurez-vous d'obtenir un numéro d'enregistrement, de l'indiquer dans toute annonce sur le web ou ailleurs et d'afficher votre certificat d'enregistrement à la vue du public. C'est la loi. Plus d'informations sur québec.ca/hébergement touristique. Un message du gouvernement du Québec.
Vous cherchez une activité originale, ludique et rassembleuse? Venez jouer avec nous au Bingo Radio de CIBL tous les dimanches de 13h à 15h sur les ondes du 101.5 FM. À gagner 3 500 $ en prix. Pour participer, procurez-vous un livret de cartes de bingo pour moins de 10 $ dans un point de vente près de chez vous. Consultez la liste sur notre site web au cibl1015.com sous l'onglet Bingo Radio de CIBL. C'est un rendez-vous les dimanches de 13h à 15h sur les ondes du 101.5 FM. Invitez vos amis. Bonne chance!
Monsieur Bulle et compagnie, un magazine radio sur le vin, la bière et les spiritueux. Des conseils pour mieux boire. Guinaël Revel et son équipe parlent du bio, de la viticulture, des spiritueux, des vignobles du Québec, du Canada, de toutes les nouveautés de la planète vin et une chronique fromage. Monsieur Bulle et compagnie, les vendredis de 9h à midi, rediffusion les dimanches 21h à CIBL 101.5 Montréal.
Un bail, je peux-tu changer ça? Et cette photo, est-ce que je peux la mettre sur mes réseaux? Puis le casier judiciaire, c'est-tu pour la vie?
Chez Étiquette Loi, on sait que la loi, c'est pas facile à comprendre. Des nuances, il y en a, mais des réponses à tes questions, il y en a beaucoup aussi.
Avec Angle Droit, on vous aide à y voir plus clair. Il est temps d'arrêter de tourner les coins ronds, parce que vos droits sont importants.
On se donne donc rendez-vous tous les mardis de 11h à 11h30 sur CBL 101.5. Parce que savoir, c'est pouvoir.
CIBL 101.5 Montréal.
Bonjour et bienvenue encore une fois à l'Effet durable sur les ondes de CIBL 101.5. Maintenant, on se retrouve avec Zoé et Thomas de l'Alternateur que vous avez peut-être déjà vu passer sur les médias sociaux. Vous leur avez peut-être même déjà parlé sur la rue ou dans le cadre de certains événements. Et donc, aujourd'hui, on va en profiter justement pour parler de qu'est-ce que l'Alternateur. Bonjour à tous les deux.
Bonjour. Bonjour.
Bienvenue à l'émission. Alors, plongeons tout de suite dans votre sujet. L'Alternateur, c'est quoi?
Bien là, on était vraiment excités, Zoé et moi, de venir parler de l'Alternateur parce que ça fait un bout qu'on fait ça, mais c'est plus sur les réseaux sociaux. Fait que si les gens sont sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok, maintenant sur TikTok, ils vont peut-être nous avoir déjà vus. Mm-hmm. Mais dans le fond, ce qu'on fait, grosso modo, c'est qu'on essaie de sensibiliser les jeunes adultes à la cause environnementale. Fait qu'on fait du contenu, je pense, divertissant.
On essaie.
On essaie.
Oui, moi, je trouve que oui, en tout cas.
informatif aussi pour informer, veux pas, sur les changements climatiques, mais aussi sur l'adaptation, sur l'énergie. Puis c'est ça, on le fait, je pense, d'une façon différente de ce qu'on voit habituellement dans les médias.
Fait que, ouais, surtout parce qu'on essaie de rester positif. Fait que ça, il y en a un petit peu moins dans la sphère médiatique là, du contenu sur en lien avec l'environnement qui reste positif. Fait que, oui. Ça fait du bien.
Ouais, oui, on se le fait quand même souvent dire, d'ailleurs. Que
c'est rafraîchissant. Ouais. Oui, vous avez cette dynamique-là, cette énergie-là. Puis effectivement, c'est positif avec la petite touche humoristique. Je pense que ça apporte beaucoup, justement, soulagement avec toute cette éco-anxiété qu'on peut vivre ou cette éco-lucidité. Et donc, où est-ce qu'on peut vous écouter, vous voir? Vous l'avez dit un petit peu, Instagram, YouTube et maintenant sur TikTok. Hein? Passage obligé, j'ai l'impression.
Ben oui, puis ça vient un peu avec l'évolution de l'ALT. Oui. Parce qu'au départ, quand on a commencé le projet, nous, c'était vraiment YouTube. On se disait... Ouais. Tu sais, quand tu veux faire du contenu, tu te dis, on va prendre une plateforme qui est pérenne. Tu sais, YouTube, veut pas, malgré l'arrivée de TikTok, malgré le changement, ça reste une plateforme quand même stable. Mm. Puis on se disait, nous, si on veut faire du contenu puis aller un petit peu plus en profondeur, c'était là. Mais tu vois, avec le temps, on a fini par... on continue d'être sur YouTube, c'est pas ça que je dis, mais on a vraiment axé notre contenu aussi sur du contenu court. Pas parce qu'on aimait plus ça, mais je pense que ça rejoignait les gens, tu sais, puis les Reels, les TikTok, les Shorts, tu sais, veux pas. Fait que, maintenant, on est sur TikTok, puis Instagram, c'est un peu notre... comment on pourrait dire, notre genre de...
Notre point central.
Ce
qu'on fait, puis on essaie vraiment de diversifier nos contenus à travers toutes ces trois plateformes-là, mais oui, ça reste Instagram, notre préféré pour le moment, mais peut-être que ça va devenir TikTok. Je sais pas.
Peut-être éventuellement. Et donc, le but, justement, à travers l'alternateur, c'était quoi les objectifs, là? Vers quoi vous vouliez aller avec ce contenu-là?
Bien, tu sais, c'est sûr que c'était vraiment de parler de tout ce qui est en lien avec l'environnement, le développement durable, les changements climatiques. Mais là, on s'oriente un petit peu plus en lien avec l'énergie, la transition énergétique. De un, parce que bien, ça fait vraiment partie de notre quotidien, ça, c'est certain. Mm. Mais on peut vraiment relier aussi l'énergie à tellement de sphères en ce moment dans ouais. notre quotidien que c'est vraiment aussi super intéressant tout le temps d'aborder des sujets en lien avec, avec ça. Mais ouais, c'est vraiment de parler d'initiatives inspirantes, de découvrir aussi qu'est-ce qui se fait en ce moment dans cette sphère-là. Fait que, ouais, je pense que c'est vraiment ça notre but là en ce moment.
Puis tu sais aussi, je dirais, au-delà de tout ça, en fait, c'est aussi d'aller à la rencontre des gens. Puis tu sais, c'est un peu ça qu'on fait dans le fond dans l'alt, parce que veux pas, plus on fait du contenu, puis plus on se dit, hey, dans le fond, les vidéos les plus intéressantes, les contenus les plus intéressants, c'est quand tu rencontres du monde puis tu te dis, wow, cette personne-là. Pas nécessairement en environnement, mais elle fait sa part d'une manière où elle crée quelque chose. Puis, tu sais, c'est un peu ces histoires-là inspirantes qu'on va aller découvrir. C'est ces gens-là qu'on veut rencontrer, que ce soit avec des projets, que ce soit dans la rue parce qu'on fait un vox pop. Tu sais, je pense que c'est un peu ça. Puis, tu l'as bien résumé, Zo, au fond, c'est d'aller rencontrer des choses qui nous inspirent puis qui nous motivent à faire des actions nous-mêmes dans notre quotidien. Tu sais.
Oui, oui. Et est-ce que vous avez comme... qu'est-ce qui vous a mené à ça quand même? Est-ce que intrinsèquement vous aviez une motivation profonde? Vous avez dit là, il faut faire quelque chose, il faut qu'on en parle, il faut qu'on sorte. Vous viviez peut-être de l'éco-anxiété ou peut-être.
Oui, on a envie de tout ça. Ça, c'est quand...
ça s'arrête pas.
Les gens en environnement, levez la main ceux qui ne vivent pas d'éco-anxiété.
Ah. C'est drôle,
on ne voit pas de main levée. Non, mais je vais commencer en disant, moi, je pense que c'est mixte. Parce que cette job-là, c'est quand même un travail. Puis c'est une chance énorme qu'on a eue aussi d'Hydro-Québec, parce que c'est eux qui propulsent notre projet. Puis tu sais, moi, je pense que c'est mon intérêt personnel, mais aussi la chance de le faire à travers un travail. Je veux pas. Parce que tu sais, la création de contenu, c'est rough. Puis c'est pas toutes les vidéos qui vont être virales. C'est pas des fois tu vas te retrouver avec un contenu qui fait 50 vues, puis des fois, il y en a un qui fait 20 000. Mm-hmm. Mais ça fait partie de la game. Fait que je pense que la motivation, c'est vraiment de voir que les gens, ça leur fait plaisir de voir un contenu positif. Moi, c'est ça ma plus grosse motivation là-dedans. T'sais, après, le but du projet au départ, c'était d'aller rejoindre une communauté de jeunes puis de les motiver. Là. Mais moi, ce qui me motive le plus, je pense, c'est de voir la réponse des gens qu'on a depuis quelques mois, qui est vraiment le fun.
Ouais, puis je pense que de mon côté, c'était vraiment aussi de rendre le sujet accessible, puis de le rendre le fun, à juste comme ouvrir la conversation sur ce sujet-là qui, des fois, je pense, peut faire peur d'une certaine manière. Vraiment. Fait que je pense que de juste comme l'avoir dans notre fil Instagram ou dans nos réseaux sociaux habituels mêlés à d'autres sujets qui sont peut-être un petit peu plus futiles ou en tout cas qui vont juste nous sortir de notre quotidien, mais ça fait du bien. Puis moi, c'était ça, je pense, aussi mon but d'aller juste comme chercher les gens qui l'ont pas dans leur quotidien non plus puis qui veulent en parler, mais qui savent pas nécessairement par quelle porte entrée nécessairement.
Puis qui comprennent pas des fois aussi parce que, tu sais, on s'entend, là, puis tu fais la même chose, là. Je veux dire, on vulgarise quand même des enjeux complexes.
Ouais.
Puis des fois, on est dans une espèce de bulle de verre puis on se dit que tout le monde comprend ça, la transition énergétique, mais OK, qu'est-ce que ça veut dire? L'économie sociale, OK, c'est quoi ça? Mais nous, c'est ça qui est le fun, c'est qu'on peut vulgariser ça. Puis oui, des fois, on va couper un peu sur le gras puis les mots scientifiques, mais ça fait partie de la game de réussir à parler d'un sujet puis de le rendre le fun à entendre, mais aussi compréhensible, tu sais. Fait que je pense que c'est un peu ça aussi.
Il y a comme ces deux volets-là. Et justement, à travers toutes les personnes que vous avez rencontrées, qu'est-ce qui est ressorti de ça? Ça doit être assez extraordinaire.
Ben oui, ben en fait, moi, je commencerai avec la curiosité des gens. Je pense que, de un, on sous-estime à quel point les gens connaissent ce qui se passe en environnement ou savent ce qu'il y a, mais les gens sont curieux. Puis tu sais, je peux te donner un exemple concret, mais on se fait souvent dire, quand on demande des fois, par exemple, on fait des vox pop, on se promène un peu partout au Québec, on demande « qu'est-ce que tu fais pour l'environnement? » Tu sais, on se fait dire « ah, je fais du tri », tu sais. Pour nous, c'est comme « hey ». On est quand même à la base. Mais en même temps, tu sens que les gens sont quand même contents de dire que pour eux, c'est quelque chose. Fait que nous, ce qu'on essaie de dire, c'est bon, faut pas accepter non plus que c'est juste ça qu'on doit faire, mais ça montre qu'il y a une curiosité, mais il y a juste un manque d'outils, je pense. Fait que c'est une des choses que j'ai remarquées.
Ouais, j'ai l'impression que les gens constatent vraiment ce qui se passe, les conséquences du réchauffement climatique, la transition énergétique, mais ils savent pas nécessairement quoi faire. Fait que là, des fois, sont un peu manque d'outils. Fait que c'est le fun aussi d'aller parler aux gens aussi pour comme tâter le pouls de ce qui se passe, de ce qu'ils font, puis tout ça. Mais aussi, dans un autre modèle, il y a vraiment la personne qui est super profondément ancrée dans un sujet vraiment précis, tu sais, qui va vraiment savoir en mille et un, tu sais, mille et un détails de ce qu'il fait, là, tu sais, que ce soit en lien avec le recyclage, ben là, il y a qui le tri, mais tu sais, vraiment plus spécifique le plastique ou vraiment l'énergie. Fait que on en a de tous les couleurs.
Puis tu sais, je pense qu'on rencontre beaucoup de gens comme ça qui sont ultra spécialisé dans un domaine, puis c'est normal. Tu sais, quand tu étudies en biologie, ben, tu es biologiste. Ben,
c'est spécialisé.
Ouais. Quand, c'est ça. Fait que je pense que ce qu'on remarque aussi, c'est ça, c'est qu'il y a des gens dans plusieurs domaines, mais des fois, cette vue d'ensemble-là de tous les enjeux, elle est moins présente que quand... Puis en même temps, nous, on... C'est normal, je veux dire, on fait de la recherche à chaque semaine sur un nouveau sujet, là. Je veux dire, on ne peut pas demander...
À quand... tout le monde de faire ça, puis d'avoir accès à ça. Tu sais, ce que je dénote, c'est l'accès à l'information, aux moyens, à ce qu'on peut faire. Tu sais, vous parliez de gens qui sont super contents de faire du tri chez eux puis de recycler, mais c'est peut-être ce qui est à leur portée présentement, puis ça, il faut le considérer aussi.
Vraiment. Mm. Puis tu sais, on en parlait aussi hors d'onde, là, mais parce qu'on préparait la chronique, justement, puis on se disait à quel point de voir aussi qu'il se crée quand même un sentiment d'appartenance, puis de comme les gens se craignent, là, des fois, on fait un vox pop, puis on finit par jaser 20 minutes après avec la personne, juste parce qu'elle est comme donc contente d'avoir rencontré du monde qui font des trucs en environnement, dans un festival où elle est allée écouter un show de Lord Larry Adjust ou de je sais pas quel groupe, tu sais. Mais c'est vrai, tu sais, moi, je trouve que ce feeling-là, il est trippant, puis tu sais, c'est même Zo qui me le faisait remarquer. Okay, les gens, ils sont comme motivés, là, tu sais.
Parce que j'ai l'impression qu'on est tellement seul aussi, des fois, à vouloir faire des actions concrètes que quand on réalise qu'on a une communauté aussi autour de nous, bien, ça nous donne juste encore plus envie de le faire.
Oui, effectivement. Et là, peut-être que vous avez reçu des témoignages, vous avez quand même parlé à beaucoup de gens. Qu'est-ce que vous recevez? C'est comme
justement,
des cadeaux.
à travers tous ces témoignages-là, on s'est vraiment intéressé à ça, puis on a voulu faire une vidéo qui mettait
les gens
l'avant,
en valeur.
Ouais, c'est ça, de l'avant les gens qui voulaient nous parler de tout ça. Fait que en ce moment, on est en train de travailler sur un projet qui va vraiment mettre en place des jeunes qui nous parlent de ce qu'ils voudraient faire pour un monde plus durable. Fait que notre prochaine vidéo, c'est vraiment ça, là. C'est des gens qui viennent nous parler d'une vision plus durable qu'il y aurait du futur ou même du moment présent.
Ah, puis tu sais, je pense que ça va être le fun de l'ancrer aussi dans un... en fait, si vous connaissez l'alternateur, vous avez vu déjà ce qu'on fait. Je pense que cette vidéo-là est vraiment différente, puis elle a quelque chose de vraiment le fun au niveau visuel. On a voulu intégrer des visuels, en fait, qui vont apparaître un peu au courant de la vidéo. On veut pas trop en dévoiler parce qu'on a vraiment hâte de montrer le produit fini. Mais je pense que ça va être spécial. Puis tu sais, c'est 7 personnes qui sont dans la vidéo qu'on est allé vraiment rencontrer de partout au Québec, de plein d'horizons différents, qui sont entre 18 et 30 ans, je dirais. Puis j'ai des petits frissons parce qu'on est inspirés d'entendre ce monde-là. C'est vraiment fou. Aller à la rencontre des gens, c'est ça qui fait que tu es le plus motivé après ça à faire ton travail. Puis eux, je te dis, là, en tout cas, moi, ils m'ont fait capoter.
Oui, c'est vraiment inspirant de les entendre.
Oui, puis ça nous sort de notre chambre d'écho. T'sais, tu parlais tout à l'heure qu'on est comme dans notre espèce de bulle de verre, là.
Ouais.
C'est ça, de s'ancrer dans le terrain, finalement.
Puis, tu sais, on trouvait que ça faisait du sens aussi pour justement ce mois de la Terre-là qui nous permet de... Ben, tu sais, parce que nous, on va... Le mois de la Terre, encore, le jour de la Terre. J'aime tellement pas ça qu'on parle de ça, parce que c'est pas une journée.
C'est une journée, mais c'est tout le temps.
Exact. Fait que nous, on trouvait que ça faisait du sens d'aller dans justement, puis vous allez pouvoir voir ce contenu-là normalement d'ici les 2 prochaines semaines.
OK, d'accord. C'était ma question, là. Quand est-ce qu'on va pouvoir voir cette vidéo qui donne des frissons?
on espère. Finalement, on dit ça, les gens vont la regarder, on va faire... non, mais tu sais, je pense que ça va être le fun, puis ça nous permet aussi de rencontrer des gens, c'est toujours vraiment très
bien. Ah, ben merveilleux. Mais merci d'être venu nous parler de votre projet, l'alternateur. J'espère qu'il y a plus de gens encore qui vont aller faire des visionnements puis connaître ce que vous faites comme matériel. Puis je serais très heureuse de vous recevoir à nouveau à l'émission,
avec l'occasion plaisir. Se présente.
Ben, avec plaisir. On espère qu'on va... Si on a plus d'abonnés après l'émission, on revient.
Pas de pression.
Non, c'est pas vrai. C'est des forces.
Un grand merci à tous les deux, donc Zoé et Thomas, de l'alternateur. Allez voir ça en ligne, ça vaut la peine.
Merci beaucoup.
Bonne journée à tous les deux. Et on s'en va maintenant vers notre entrevue de clôture de l'émission d'aujourd'hui, qui est avec Annelle Châtaignier, auteure de l'essai « Éco-sabotage, de la théorie à l'action » paru aux éditions Éco-Société. Bonjour, Annelle.
Bonjour.
Donc, pardon, on était en train de mettre l'appel sur main libre afin de vous entendre adéquatement. Donc, vous êtes agrégée docteur en histoire de l'art, artiste et professeur de dessin. Vous militez au sein de différents collectifs de sensibilité écologique et ou anarchiste. Et ce livre, donc, Éco-sabotage, est votre premier essai. Donc, comment est-ce que vous définissez l'éco-sabotage?
Écoutez, on peut imaginer que quelqu'un arrive sur une terre et décide de couper tous les arbres, toutes les forêts, de creuser la terre, de déverser des polluants jusqu'à comment polluer le lait des femmes, empêcher les gens de cultiver, etc. Bon, ça, c'est une attaque directe qui est faite contre la terre et contre le vivant et contre les gens qui vivent par ailleurs sur place. Bon, dans un contexte comme celui-ci, non seulement vous pouvez, mais vous devez réagir. Hein, vous devez soit manifester et quelque part faire valoir votre droit à la justice et à la défense du vivant. Donc, de ce point de vue-là, l'éco-sabotage se présente comme une manière, effectivement, de défendre le vivant dans un moment qui est un moment historique pour nous, je pense, qui est celui d'une dégradation radicale des conditions de vie sur Terre. Hein, les possibilités aujourd'hui de vivre de manière sereine sur Terre pour les décennies qui viennent sont très très lourdement mises en danger par notre système extractiviste, notre mode de production aussi économique. Et c'est peut-être aussi l'heure de tirer un certain bilan des formes d'action qui ont pu être mises en place depuis les 20-30 dernières années. Il y a eu beaucoup de COP, beaucoup d'actions aussi citoyennistes, diverses et variées, de désobéissance civile, sans remettre en cause la nécessité de ce type aussi d'action et de démarche. Il faut constater qu'aujourd'hui, le constat est terrible et les perspectives sont assez lourdes pour le siècle à venir. Donc c'est dans ce cadre-là, je pense qu'il faut penser la question de l'éco-sabotage et tenter effectivement d'en donner une définition juste. L'éco-sabotage est avant tout quelque chose qui se met au service du vivant. Hein, je le redis parce que il faut toujours rappeler qu'il y a une entreprise aujourd'hui méthodique, généralisée, de destruction des conditions de vie, de destruction des environnements, des écosystèmes, du climat, bien entendu, et que tout ça, en fait, va produire non seulement des difficultés, mais potentiellement des morts pour les générations à venir. Donc, dans ce contexte-là, on pourrait dire que l'éco-sabotage est une manière aussi de se mettre du côté de la vie et de la défense de la vie. Si jamais c'était une forme de violence exercée sur des objets ou sur des machines, c'est une violence qui sauve des vies.
Et on parle aussi de sabotage, d'action directe. Qu'est-ce qui les distingue?
À vrai dire, pas grand-chose. La notion de sabotage est comprise dans la notion d'action directe. Il y a plein de manières, effectivement, de pratiquer l'action directe et l'éco-sabotage. On peut empêcher que des arbres soient coupés, par exemple, comme dans le cas de l'usine de batterie en ce moment, de Northvolt. On peut éventuellement bloquer des routes, on peut empêcher des trains de circuler, on peut mettre à l'arrêt des machines de chantier, comme en ce moment dans le sud de la France, dans le cadre d'un conflit, d'un mouvement contre la construction d'une autoroute. Bon, il y a plein de manières d'exercer ça.
Oui. J'allais dire, ce serait donc des déclinaisons finalement d'une forme d'éco-sabotage ou en tout cas, c'est ancré à la même place.
Oui, l'action directe est une forme particulière de l'histoire du militantisme qui consiste non pas à passer par l'intermédiaire d'un certain nombre de représentants, d'élus, de responsables, mais à tenter de résoudre un problème de manière directe. Donc c'est vrai que dans la notion d'action directe, historiquement, il y a cette idée que les élus, les représentants, ne jouent pas suffisamment leur rôle ou le jouent mal. Et que de ce point de vue-là, il y a besoin pour une société civile, pour un groupe, pour une communauté, d'assumer pour elle-même et en elle-même la réponse ou la résolution d'un problème. Donc c'est vrai que ça peut être le cas, comme je l'ai dit, dans le cadre d'un conflit social particulier, d'une lutte écologique spécifique, mais la notion d'action directe est beaucoup plus large et quelque part plus profonde que ça, puisqu'elle peut impliquer aussi bien de monter une cantine dans un quartier pour des gens qui ont faim, de trouver du logement pour des personnes qui seraient à la rue, de monter un système de défense face à des répressions injustes. Bon, il y a plein de manières finalement de trouver les solutions en soi-même et pour soi-même, quoi. Enfin, pour le groupe.
Et ça m'amène à la question de la diversité des tactiques dont on parle. Donc, ça comprend différents niveaux, différents degrés d'intensité aussi. Qu'est-ce qui se retrouve dans cette diversité?
Alors, la diversité des tactiques, à mon avis, elle est avant tout liée à le besoin de se libérer d'une définition qui a été donnée, excusez-moi c'est un peu long, mais qui a été donnée par le pouvoir, de la manière dont on pouvait avoir d'agir collectivement sur le terrain social et collectif. Il y a effectivement eu dans les années 90, peut-être aussi dans le prolongement de ce qui s'est passé dans le militantisme très actif hein, de l'écologie politique des années 70, il y a eu le désir de ramener, de limiter le champ des possibles. Et de ce point de vue-là, il y a une stratégie, à mon avis, tout à fait délibérée, consciente. Enfin, j'en parle dans le livre, hein, notamment autour d'une entreprise, enfin, d'un conseil, qui s'appelle Start4, qui a fait tout un travail de conseil auprès des États et de grandes entreprises internationales et américaines. Et la stratégie était très précise. Elle consistait avant tout à conseiller d'opposer ceux qui seraient dans le camp du militantisme citoyenniste, à visage découvert, et dans une logique effectivement dite pacifiste, et de les opposer absolument à ceux qu'on va dénommer les radicaux. En fait, là-dedans se loge d'abord un premier mensonge, c'est que historiquement, ça n'est pas le cas. Il faut voir que les mouvements politiques, que ce soit ceux pour la défense des droits civiques, ceux des suffragettes, ou pourquoi pas des mouvements décoloniaux comme ceux de Mandela et de l'ANC en Afrique du Sud, sont des mouvements qui ont en fait une palette extrêmement large de formes d'action dans lesquelles les différents niveaux d'engagement et de radicalité dans les formes d'action sont en fait complémentaires et apparaissent à différents moments de l'évolution du conflit ou de la résistance par ailleurs. Des pouvoirs en face à des causes qui sont justes et nécessaires par ailleurs. Donc il faut, je pense, avant tout se questionner sur le souhait, le désir d'un certain nombre de représentants, de pouvoir, de lutte, pourquoi pas, de gouvernance, de créer les conditions d'une sorte de paix sociale qui est en fait un modèle aussi, consistant à empêcher, à freiner les formes de militantisme et d'empêcher d'avoir une certaine forme de force. Donc, c'est pas assez très clair, mais la question de la diversité des tactiques, il faut à mon avis toujours la penser d'un point de vue collectif, et dans cette idée que c'est un spectre long et large de différentes formes d'action. Quand un mouvement est amené à militer ou à s'opposer à un projet écocidaire, eh bien, il va utiliser un certain nombre de modes d'action progressifs, de la pétition à la manifestation, la manifestation à la désobéissance civile. Et si jamais, effectivement, en face, on ne trouve que des oreilles fermées, eh bien, on peut historiquement s'autoriser à utiliser des formes d'action plus importantes. C'est exactement ce qu'ont fait les suffragettes tout au long de la deuxième moitié du 19e siècle, c'est-à-dire passer d'un mode de militantisme par le plaidoyer, en essayant de convaincre les hommes politiques qui, par ailleurs, n'en avaient absolument rien à faire, pour au final passer à des formes d'action beaucoup plus intenses. Et ça a été une réussite, hein, par ailleurs, couper des fils télégraphiques, voire même des incendies, des briques vertes, des vitrines, etc. Et ça leur a permis d'accéder à une audience, à une écoute et à une forme de force politique aussi nécessaire.
Et donc, là ça exprime bien ma prochaine question. La diversité des tactiques comprend aussi les actions qu'on considère comme étant plus violentes ou / radical, mais donc c'est compris là-dedans aussi, là, les actions violentes.
Oui, tout à fait. Même si c'est vrai que si vous soulevez une question, bien entendu, qui est centrale, qui est la question de la violence, hein, qui est souvent soulevée pour parler de la question de l'éco-sabotage. Bon, nous, en France, on a eu le mouvement des Gilets jaunes. La répression qui a été exercée par les forces de police a été extrêmement violente. Par ailleurs, la destruction qui est aujourd'hui faite du monde vivant par le système économique extractiviste qui est le nôtre est d'une violence absolument folle, presque haineuse, dont on ne mesure qu'à peine la réalité parce qu'elle est loin de nos yeux et de nos oreilles. De ce point de vue-là, l'éco-sabotage n'est pas violent. Je rappelle qu'il s'exerce essentiellement sur des objets, sur des machines, sur, il tente de détruire, je dirais, ce qui nous détruit. Mmh. Et à l'inverse, hein, je rappelle qu'il est là pour défendre la vie. Donc c'est un rapport à la violence qui est toujours, à mon avis, à interroger. Voilà.
Oui. Et qu'est-ce qui justifie pour vous d'en arriver justement à une intensification des tactiques? Là, vous l'avez nommé quand même à quelques reprises, le fait que les oreilles soient fermées, la partie de plaidoyer ne fonctionne pas, on n'arrive pas aux fins que l'on souhaiterait. Est-ce qu'il y a autre chose pour vous qui justifie d'en arriver là?
Est-ce que vous pourriez répéter votre question, s'il vous plaît?
Oui, bien sûr. Je demandais, qu'est-ce qui, pour vous, justifie d'en arriver à une intensification dans les tactiques?
Eh bien, avant tout, je pense que ce qui justifie d'intensifier les tactiques aujourd'hui, c'est peut-être une conscience historique nouvelle, mm-hmm. Qui est celle, effectivement, des dangers qui nous guettent collectivement. J'imagine, qu'est-ce que vont penser les gens dans 100 ans? Ils vont peut-être se dire, mais qu'est-ce que ces gens-là avaient dans la tête pour ne pas réagir de toutes leurs forces quand c'était encore possible? Mmh. Nous sommes à un moment historique. Et à vrai dire, on est déjà en train d'en sortir. Je veux dire, ça fait déjà bien 20, 30 ans qu'un certain nombre de dispositifs, de formes de militance. Bon, le résultat est là. Pour l'instant, les émissions sont en augmentation constante. Les écosystèmes ne cessent de s'effondrer, les forêts, bon, on connaît effectivement toutes ces données-là. Alors qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, nous ne réagissons pas ou pas suffisamment? Il faut se positionner vraiment, je pense, dans cette perspective historique. Mmh. Peut-être qu'il y a d'autres raisons possibles, hein, une résistance têtue aujourd'hui du système capitaliste et économique qui continue à vouloir défendre. Parfois même de manière particulièrement radicale, lui aussi. Je pense notamment à la montée de l'extrême droite en Europe et un peu partout à travers le monde. On rentre dans un nouveau temps historique, qui est un temps où, effectivement, on va tous, à mon avis, être amenés à faire des choix importants. Choisir soit la destruction du vivant et des conditions de vie sur Terre pour l'avenir, comment produire de la nourriture, comment avoir accès à l'eau, comment bien vivre pour les décennies à venir dans des conditions dégradées et par ailleurs difficiles, ou est-ce qu'on est pour la destruction d'autre chose, d'un système, la destruction d'un système qui nous détruit, un système économique extractiviste qui est radical dans son projet. Je pense que tous et toutes, chacun à notre niveau, je reparle de diversité des tactiques, il y a plein d'entrées possibles du fait de produire des sandwichs ou de monter une cantine jusqu'à effectivement aller vers des actions plus radicales de défense du vivant, eh bien nous devons tous, à mon avis, nous poser la question de notre engagement face à cette question historique. Qu'est-ce que nous souhaitons voir émerger pour les années à venir? Qui voulons-nous soutenir et de qui nous voulons être solidaires?
Voilà. Question vitale et essentielle, Anaëlle Châtaignier, donc avec votre ouvrage « Éco-sabotage de la théorie à l'action » qui se veut aussi un guide pour les militants qui auraient envie de le lire, puis une partie historique et de positionnement par rapport à la diversité des tactiques, l'éco-sabotage et les thématiques qu'on a abordées aujourd'hui. Bon lancement de ce livre, bonne suite avec cette lutte et je vous souhaite fortement d'être lu abondamment pour que les gens puissent se faire eux-mêmes leur idée par rapport à l'engagement qu'ils ont envie de prendre par rapport à la situation actuelle. Un grand merci d'avoir parlé avec nous ce matin, Anaëlle Châtaignier. Une excellente journée à vous. Au plaisir.
Merci.
Donc, déjà la fin de cette émission. La semaine prochaine, Alexandre Escure nous parle de bibliophilie. Nous avons une grande entrevue avec Nicolas Paquet, réalisateur du documentaire Malartic. Et ce soir, si ça vous dit, on a un super événement, communication responsable à la Maison du développement durable, en vous y attendant en grand nombre. Merci à Geoffrey Pro pour la mise en onde. Merci à la Maison du développement durable de rendre cette émission possible. Et retrouvez-nous en rafale sur toutes les plateformes. Bonne journée à vous.
Depuis plus de 30 ans, le journal mensuel Éco Montréal est le fier porte-parole de l'actualité politique, économique, sociale et culturelle au cœur de Montréal. Distribué gratuitement et rejoignant 200 000 lecteurs, Éco Montréal est aussi un véhicule publicitaire polyvalent en répondant efficacement aux besoins de différents annonceurs, comme dans l'immobilier ou tout simplement pour y afficher avis public ou services professionnels.
À lire ce mois-ci dans Éco Montréal. Entrevue exclusive avec Paul Saint-Pierre Plamondon, Les gagnants du concours Le français, une langue qu'on aime, un système de corruption syndicale et en édito, une volte-face politicienne.
Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter notre plateforme numérique à ecomontréal.com ou à composer le 514-844-2133. 514-844-2133.
Je m'appelle Charlie Mulot et je vous donne rendez-vous tous les vendredis à 20h pour La Cabane à Contes, l'émission où on vous raconte des histoires.
Spraynet et Spandex, tous les hits des années 80.
Wow, wow, qu'est-ce que c'est ça?
Ben, c'est pour annoncer ton émission.
Mais non, je ferai pas jouer des hits. Je vais faire découvrir d'excellentes chansons qui ont pas ou très peu joué à la radio à l'époque. D'ailleurs, tu devrais aimer ça, je pense.
OK, reste en ligne, cours la chance de gagner un voyage à Vegas avec 4 de tes chums.
Eh, bah boy! Spraynet et Spandex les mardis de 16h à 18h et en rediffusion les samedis de 21h à 23h sur CIBL 101.5
FM.
Cœur de la culture.